Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Vous êtes sur Point d'Orgue, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque je renoue avec une ancienne tradition que j'avais dans des plus vieux numéros de Point d'Orgue. Je viens avec un invité et pas n'importe qui. Aujourd'hui, je suis accompagné de Elliot Babekoff. Bonjour Elliot.
Bonjour Jean.
Alors Elliot est un organiste jeune, il est né en 2006 et il a fait sa carrière à Saint-Étienne dans les classes d'orgue, de piano et de clavecin et d'écriture, et ensuite il a rejoint le conservatoire de Lyon, puis enfin celui de Toulouse où il est aujourd'hui en classe d'orgue, donc sous la direction de Johan Tardivel. Il prépare son entrée au CNSM de Paris, on lui souhaite d'ailleurs beaucoup de courage pour ça, et il a travaillé avec des grands maîtres comme Jean Guillou, Jean-Willem Janssen ou Bernard Foucroule, et c'est également l'organiste accompagnateur de la Schola Cantorum. Donc j'ai le plaisir de travailler avec lui depuis 2 ans maintenant, et j'ai voulu lui donner le micro pour qu'il puisse partager avec vous ses passions et ses goûts musicaux. Et il faut dire que là, il y a des choses à dire puisque les musiciens d'église ont un certain répertoire, peut-être que vous pouvez connaître et peut-être que vous aurez quelques découvertes. Donc aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, Elliot nous accompagnera pour ce voyage musical. Et pour commencer, Elliot a décidé de vous parler d'un compositeur extraordinaire, Jean-Sébastien Bach. Évidemment, le poncif, presque, j'ose dire, tellement on vous en parle, tellement vous entendez ses œuvres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit du maître dans l'exercice absolu. Quand on parle d'un maître de chapelle, de musique sacrée, d'organiste, forcément, c'est Jean-Sébastien Bach qui vient en premier. Et l'une de ses œuvres en particulier, la Messe en Si, œuvre spéciale quand on parle de Jean-Sébastien Bach, puisqu'il s'agit de l'une de ses œuvres chrétiennes, rédigée en latin. C'est suffisamment notable pour être souligné. Et donc nous, forcément, on en fait un peu nos gorges chaudes. On est content de pouvoir dire que cette œuvre compte au panthéon des œuvres liturgiques et des œuvres sacrées les plus incroyables jamais écrite en Occident. Et Elliot, tu as voulu nous faire, pas écouter toute la messe naturellement, un extrait seulement. Alors quel extrait as-tu choisi et pourquoi ?
J'ai choisi un extrait donc du Gloria, qui est le Et in terra pax, la deuxième phrase du Gloria. Un extrait qui peut être séparé en deux parties. Tout d'abord une partie qui est plutôt à tendance harmonique, c'est-à-dire que on est plutôt concentré sur des accords et sur une mélodie ou des éléments thématiques qui sont très courts, plutôt simples. Et ensuite une deuxième partie qui est en fait une immense fugue, c'est-à-dire une immense pièce contrapuntique où chaque voix en vaut une autre, et qui me plaît particulièrement parce que c'est une fugue qui est basée sur deux éléments thématiques. Tout d'abord le sujet, qui est donc le thème principal de la fugue, et ensuite le contre-sujet, qui est l'élément qui va venir s'ajouter à une autre voix au même moment, pendant le thème, quand il sera exposé après la deuxième fois. Donc voilà, c'est deux éléments thématiques qui sont très, très différents et qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une œuvre, en tout cas une partie de la Messe en Si qui me plaît particulièrement.
Et alors, quand tu décides de nous faire écouter ça, parce que bien entendu, la Messe en Si, on l'a écoutée, on l'a réécoutée, peut-être même les auditeurs autant que toi, et pourquoi est-ce que cet extrait te touche particulièrement ? Donc j'ai compris que la fugue était un exercice qui te plaisait, en tant qu'organiste, c'est normal aussi, mais pourquoi cet extrait-là, et puis cette interprétation, parce qu'il faut dire que cette interprétation de Philippe Hervègue n'en vaut pas d'autre, pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là plutôt qu'une autre ? Donc pourquoi, double question, pourquoi est-ce que cet extrait-là particulièrement t'intéresse, de la Messe en Si ? Et pourquoi cette façon de faire de Philippe Hervègue ?
Mais tout d'abord, c'est un extrait de la Messe en Si qui montre bien que Bach était un compositeur qui sort définitivement du lot et qui a produit une musique qui est absolument exceptionnelle et qui ne sera jamais égalée par sa dimension et par toute la beauté qu'elle contient. Et cet extrait-là est particulièrement bien mis en valeur par l'interprétation de Philippe Hervègue, parce qu'il a une sorte de sérénité, de calme par rapport à une musique qui est quand même extrêmement difficile, vous pourrez l'entendre. Et également parce qu'il a choisi d'avoir dans son cœur des voix d'enfant. Et je trouve que dans le Gloria et Paix sur la Terre, c'est la paix est particulièrement bien mise en valeur par ces voix d'enfants qui sont angéliques, en fait. C'est le sujet.
Et ça donne un petit côté, effectivement, aussi très léger, très aérien, qui est assez extraordinaire. Ouais, moi, je suis d'accord. J'ai aussi écouté cette version. Je suis plus familier de la version de John Eliot Gardiner. Extraordinaire version, avec le chœur Monteverdi et qu'il dirige à la perfection, comme d'habitude. Mais il est vrai que dans cette version-là, il y a ce calme et cette sérénité. T'as employé les deux grands mots qui sont incroyables pour un Gloria. Tant il est vrai que quand on pense Gloria, on pense souvent à virtuosité, on pense à quelque chose d'extrêmement emballé, on pense à l'instrumentation. D'ailleurs, là, l'instrumentation est aussi assez, on va pas dire chargée, mais elle est globale, elle est complète, avec les cordes, également les trompettes, les cuivres et les timbales, qui nous montrent bien qu'on est dans un Gloria avec un thème particulièrement festif. Mais il est vrai que là, il y a cette dimension très calme que je trouve extraordinaire, que je suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un très bel extrait. Effectivement, les voix d'enfant, ça ajoute un petit plus. Alors maintenant, chers auditeurs, quand vous en a parlé, de long en large et en travers, eh bien vous allez pouvoir vous faire une idée vous-même. Je vous donne juste une toute petite clé de lecture par rapport à ce qu'a dit Eliot, parce qu'il nous parle avec son langage de musicien. Alors vous, peut-être que il y a des choses qui vous semblent un petit peu plus énigmatiques, notamment quand on parle de fugue. Fugue, ça vient de l'italien fugare, c'est tout simplement la fuite. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Vous avez tout simplement le thème, alors le mot savant, c'est le sujet, qui est exprimé comme si vous aviez une phrase, et en fait, elle sera répétée comme une forme de mantra, et en fait, dans les différentes voix, vous allez voir, ils vont se passer la balle, presque, et c'est ça, cette idée de fugue, c'est-à-dire cette idée d'aller toujours de l'avant avec ce thème qui se répète, parfois avec quelques petites variations, et bien entendu, la façon dont se mêlent le sujet et le contre-sujet, comme l'a bien relevé Eliot, qui est ici assez extraordinaire. Faites-vous votre propre idée, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et également par mail pour dire ce que vous pensez de cet extrait. Voici donc un extrait de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, Et in terra pax, sous la direction de Philippe Hervéguez. un fabuleux accord parfait majeur pour une œuvre majeure. C'est bien ce qui conclut cette seconde phrase du Gloria de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Naturellement, si cet extrait vous a plu, je vous invite à découvrir l'entièreté de la messe. Armez-vous d'un tout petit peu de patience et beaucoup de passion parce que ça prend un peu de temps, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Je peux vous le dire, c'est l'une des œuvres majeures, absolument majeures de la musique occidentale et de la musique mondiale. Quand vous écoutez cette œuvre, vous avez déjà un petit avant-goût de paradis, c'est du moins ce que je pense. Merci Elliot de nous avoir fait découvrir cet extrait, redécouvrir cet extrait pour d'autres peut-être. Et alors maintenant, quand on parle de Jean-Sébastien Bach, on va faire un pont qui pour nous les musiciens peut nous sembler assez évident, pour les auditeurs un petit peu moins. On va passer au 20e siècle avec un compositeur là aussi extraordinaire que je mets sur le même plan dans la musique sacrée que Jean-Sébastien Bach et qu'un autre qui s'appelle Charles Tournemire. Il s'agit de Olivier Messiaen. Pour nous, c'est très important de parler d'Olivier Messiaen parce que, enfin à mon sens en tout cas, c'est l'un des rares musiciens comme Tournemire et comme Jean-Sébastien Bach, qui a été capable de mettre le sacré au centre de son œuvre et de faire des choses tout à fait extraordinaires. Alors Olivier Messiaen, mesdames et messieurs, pour vous en parler très brièvement, organiste à Paris, à la Trinité, une très très grande paroisse parisienne, qui en fait, ça se passait pas très bien avec le curé. Il faut dire que le style d'Olivier Messiaen était un petit peu... le moins qu'on puisse dire, c'est alambiqué, vous allez très vite vous rendre compte pourquoi. Et en fait, il avait été déclaré une paix des braves, et le curé lui a autorisé, sous couvert de faire tout ce que le curé voulait sur toutes les autres messes, mais la messe du midi, il pouvait faire ce qu'il voulait, et très vite, on appelait cette messe la messe des fous. Et en vérité, tout le conservatoire venait écouter les œuvres extraordinaires et les improvisations de Olivier Messiaen, et c'est vrai que là, il a laissé libre cours à son génie musical à l'orgue. Il faut dire que c'était un compositeur très esthète, amoureux du chant des oiseaux, ornithologue très poussé, qui d'ailleurs déclarait que c'était le plus grand musicien que la Terre ait jamais porté. Il était également professeur de composition au conservatoire, et c'est l'un des plus grands musiciens vraiment du XXe siècle. Il a laissé une œuvre majeure, et en particulier dans la musique sacrée. Et l'extrait que tu nous proposes aujourd'hui, Elliot, c'est une de ses œuvres peut-être pas très facile à écouter, et là ça peut être intéressant de savoir ce que tu as à dire à ce sujet. Il s'agit de la fin, la toute fin je crois, de la messe de la Pentecôte, le vent de l'esprit, je crois que c'est la sortie, c'est ça ?
C'est ça, c'est la sortie de la messe de la Pentecôte, donc une messe qu'il a écrite à la toute fin des années 40, si je ne me trompe pas, en 1949, et qui est donc une messe, en tout cas les parties d'orgue d'une messe classique, c'est donc l'entrée, l'offertoire, la communion et la sortie. Et il va écrire cette messe, il est âgé d'une quarantaine d'années, et c'est une œuvre qui est une des œuvres les plus célèbres de Messiaen quand on parle de son œuvre d'orgue, et même une de ses œuvres les plus célèbres pour tout instrument. Donc c'est la sortie qui s'appelle Le vent de l'esprit. Toutes les pièces de la messe de la Pentecôte sont sous-titrées. Ici, c'est le vent de l'esprit parce que c'est une pièce qui est très volatile. C'est étrange de dire volatile parce que il y a également dans cette pièce des chants d'oiseaux. Mais c'est une œuvre qui est également très, très dure, très violente dans la manière dont elle est écrite. Et vous en rendrez très vite compte, puisque j'ai choisi une interprétation qui est d'autant plus martiale, notamment avec l'orgue de Notre-Dame de Paris, qui est un orgue qui est extrêmement, extrêmement direct. Et donc c'est une œuvre qui est articulée en trois grandes parties, donc, et autour d'un espèce de canon, ou d'un contrepoint rythmique au milieu de la pièce, qui est absolument fabuleux et qui montre l'admiration totale de Messiaen et même tout son côté maniaque vis-à-vis des rythmes, puisque en fait la partie centrale donc s'appelle le chant de l'alouette. À l'orgue, il faut savoir qu'il y a trois plans sonores. On peut avoir trois plans sonores: la main droite, la main gauche et le pédalier, donc le clavier qui est le clavier des pieds. Et ici, il y a trois plans sonores, donc la main droite va jouer le chant de l'alouette, donc un chant d'oiseau. La main gauche va jouer un contrepoint rythmique qui va aller de notes très longues, donc qui durent, qui commencent par durer 23 doubles croches, donc une valeur rythmique très courte, qui va aller de 23 chromatiquement à une seule double croche. Et le pédalier, ce sera exactement l'inverse, puisque la partie de pédale va commencer avec des notes d'une valeur de 4 doubles, puis 5, puis 6, jusqu'à 24 ou 27, il me semble. Et ça va créer un espèce de, voilà, de canon rythmique ultra élaboré au milieu de cette pièce, au milieu d'un espèce de, pas de bazar, mais de plusieurs extraits, de plusieurs idées que Messiaen a mis en musique, toutes très différentes. Mais au final, en se penchant un peu plus sur l'œuvre, on peut voir qu'elles sont toutes un peu reliées, que certaines sont des versions contractées d'autres, et donc c'est pour ça que c'est une œuvre que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui.
Et c'est un condensé dans le condensé, puisque l'œuvre dure 3 minutes 24 dans la version de Olivier Latry, ce qui est très court, et qui est extraordinaire. Quand Elliot nous parle de dimension volatile de l'œuvre, c'est tout à fait vrai. Alors il y a celle, la dimension ornithologique, je vous le disais, avec le chant des oiseaux, mais pourquoi est-ce que ça se rapporte là? Bien entendu, quand on parle devant l'esprit et de la Pentecôte, naturellement, on est obligé de penser à l'évangile du jour, où l'esprit se divise en langue de feu et va sur la tête de tous les disciples qui ensuite sont chargés dans toutes les langues d'annoncer la bonne nouvelle. Et donc il y a cet aspect de ouvrez les portes et en même temps enfuyez-vous, qui a presque comme un vent de panique, parce qu'au début dans l'évangile il est question d'un grand bruit, et là vous allez vite l'entendre dès le début, le grand bruit, on y est direct,
surtout très bien mis en valeur avec la musique de Messiaen,
et notamment ici en plus avec l'interprétation de Olivier Latry, avec effectivement ce fameux orgue de Notre-Dame de Paris, avec ces chamades qui ont un son très particulier, très direct. On aime, on n'aime pas, ça, c'est un sujet dans lequel on ne va pas rentrer, mais il est vrai qu'ici, on l'entend vraiment bien, et c'est là où on se dit, effectivement, le vent de l'esprit souffle. Alors, il souffle très fort chez Messiaen, bien qu'au milieu, il y ait quelques, effectivement, petites facéties où il met en avant son goût pour les chants d'oiseaux, etc., mais là aussi, quand on pense aux oiseaux, alors là, c'est le chant de l'alouette, nous a enseigné Elliot, mais il y a bien sûr l'oiseau, la colombe, qui représente l'Esprit Saint, donc il y a forcément cette dimension ornithologique qu'on retrouve dans l'œuvre de Messiaen. Voilà quelques clés de lecture qui vous permettront, je l'espère, de comprendre cette œuvre. Si effectivement on a mis sur le même pied Olivier Messiaen et Jean-Sébastien Bach, c'est parce que tous les deux sont capables du plus grand figuralisme dans leur façon de faire, dans leur façon d'être artiste sacré, et c'est pour ça qu'il est important de comparer les deux. Dans leur façon de faire. Bien sûr, musicalement, vous allez l'entendre, c'est assez différent, je ne vous le cache pas. Il est vrai que la Messe des Fous portait bien son nom, et vous doutez bien que quand on entend quelque chose comme ça... Alors, ceci dit, je dis ça, mais Jean-Sébastien Bach, quand il composait certaines de ses œuvres, c'était pas du tout apprécié du contemporain, notamment à l'orgue, et il est vrai que là, on a aussi une dimension extraordinaire. Moi, j'ai juste une petite question quand même, Elliot, quand on joue ce genre d'œuvre, est-ce qu'on est plus dans le concert ou plus dans la messe? Parce que effectivement, c'est vrai que on parle de sa difficulté technique, on parle de la multiplicité de ses thèmes. Finalement, là, nos auditeurs ont des clés de lecture, mais quand nous, on les a pas, c'est de la musique qui est difficilement atteignable. Alors comment est-ce que toi-même, si tu étais au grand orgue de Saint-Sernin, par exemple, est-ce que tu appréhenderais cette musique si tu devais la jouer pour une messe ou pour un concert? Comment est-ce que tu mets le côté sacré ou pas à l'intérieur? Est-ce que c'est un véhicule qui te semble assez perméable pour les gens qui l'écoutent?
Mais je pense que le côté sacré est indivisible de cette pièce. On ne peut pas la jouer sans penser à la dimension sacrée, puisque c'est une écriture qui est assez typique des sorties de messe, tout d'abord, une pièce qui est très virtuose, très très forte, et également c'est en fait la dimension liturgique de la pièce aide beaucoup pour l'interprétation, puisque en fait c'est une musique qui est comme tu l'as dit, c'est une musique qui est très très imagée, et en fait en jouant et en écoutant cette musique, on peut s'imaginer très facilement le vent de l'Esprit Saint qui souffle, et de la même manière qu'on peut s'imaginer le chant des oiseaux.
Absolument, et non seulement je suis d'accord avec ça, Bon, après, moi, j'ai plutôt la chance d'écouter ça, hein, en tant que chef de chœur et moins qu'organiste, donc je peux l'écouter. Il y a une dimension aussi dont on vous a pas parlé chez Messiaen qui est assez extraordinaire, qu'on entend un petit peu au milieu de cette pièce-là, c'est la dimension de la synesthésie. Il faut savoir que Olivier Messiaen était capable de voir les couleurs et il les rendait par sa musique. C'est assez saisissant quand vous entrez dans une église et qu'on joue du Messiaen, c'est l'aspect matériel, physique de l'œuvre qui est jouée. Et il y a ce jeu avec les acoustiques, il y a ce jeu effectivement avec les plans sonores, comme on vous disait, et qui sont chez Messiaen tout à fait extraordinaires. Alors, le mieux, c'est de se rencontrer sur place, dans une église, et de demander à votre organiste, s'il peut l'avoir dans les doigts, de vous jouer l'œuvre de l'esprit, parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais il est vrai que s'en saisir au milieu, in situ, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Voici donc la sortie de la messe de la Pentecôte d'Olivier Messiaen, le vent l'esprit sous les doigts extraordinaires de Olivier Latry. C'est ainsi que Olivier Messiaen décide d'interpréter, de réinterpréter pour vous et de vous faire voir sa vision, et je dis bien vision puisqu'il y a cette dimension solide dont je vous parlais, du vent de Dieu dans sa fin de messe de la Pentecôte, une œuvre extraordinaire. Là aussi, je vous invite à découvrir l'entièreté de cette messe, œuvre absolument magistrale dans le répertoire d'Olivier Messiaen qui comporte là aussi d'autres chefs-d'œuvre. Elliot, merci beaucoup.
Mais merci à toi, Jean.
Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission avec d'autres musiques que nous allons partager ensemble pour voir là aussi qu'il y a d'autres merveilles dans d'autres styles totalement différents. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine sur Point d'Orgue.